à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Informations en ce jeudi 18 janvier. Le gouvernement du Québec procède actuellement à une consultation nationale dans le but de mettre à jour sa loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qui, depuis sa création en 1978, a très peu été modifiée, comme l'explique M. Alain Fournier, directeur général de la Direction générale du développement régional au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
Si on fait le calcul, ça fait cette année 45 ans que la loi est là. Au fil des ans, on a fait certaines modifications, mais des modifications mineures, on l'a adapté. À ce moment ici, en 2024, on considère important là, de faire un exercice beaucoup plus important.
Depuis le printemps 2023, le ministère a procédé à la mise à jour des données et fait un portrait de l'état de situation. Maintenant et pour les jours à venir, ce sont des consultations régionales qui sont tenues partout au Québec, dont celle pour l'Abitibi Témiscamingue, qui a eu lieu à Rouyn-Noranda le 16 janvier dernier.
On va rencontrer les représentants de chacune des régions du Québec pour entendre ce qu'ils ont à nous dire, leurs enjeux, leurs besoins, leurs inquiétudes et aussi les pistes de solutions et de développement qu'ils voient pour améliorer la loi et faire en sorte que le développement agricole au Québec continue d'être un vecteur là, de développement comme il est.
La majorité des acteurs locaux et régionaux du milieu agricole et de l'environnement étaient présents autour de cette table pour discuter des enjeux propres à notre territoire, notamment des élus de tous les paliers et de chaque MRC, des représentants de l'UPA et de l'Unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue, le Conseil régional de l'environnement et l'organisme de bassin versant.
Une des choses qui est ressortie, puis je pense que c'est assez partagé par tout le monde, c'est la volonté de voir une loi qui est capable de s'adapter à la réalité de chacun des milieux. Puis ça, ben, ça nous a été exprimé, je vous dirais, pas juste ici. C'est-à-dire qu'une loi qu'on appelle hein, mur à mur, là, la même chose pour tout le monde, ça ne nous permet pas toujours d'avoir un développement là, maximal.
Le même constat a été soulevé concernant les mesures dans les programmes de financement. Et parmi les autres sujets, l'accaparement des terres, qui nuit à la vitalité des communautés, l'absence d'abattoirs et plus de souplesse dans le processus de dézonage. Le MAPAC et ses partenaires visent une mise en œuvre graduelle de la nouvelle loi à compter de l'automne prochain. La Témiscamienne d'origine, Mme Sandy Lachapelle, a été choisie pour devenir l'une des ambassadrices de l'Institut de la planification financière, organisme mandaté par l'Autorité des marchés financiers pour régir le droit de pratique au Québec en décernant le titre de planificateur financier et aussi en supervisant la formation continue. Le rôle de ces 11 ambassadeurs et ambassadrices sera de valoriser la profession et favoriser la relève dans ce domaine, comme l'explique Mme Lachapelle.
La planification financière, c'est une profession passionnante, mais peu connue du grand public, mais aussi plus particulièrement, je pense, des étudiants dans leur choix de carrière. Hein. C'est rare qu'un enfant va affirmer qu'il veut devenir planificateur financier plus tard. Donc, c'est un métier qui est méconnu et qui gagne à être connu.
En plus d'avoir mis sur pied son propre cabinet, Mme Lachapelle a acquis une bonne notoriété dans les médias. Elle écrit des chroniques sur la finance personnelle chaque semaine dans Le Devoir et fait des apparitions sur RDI Économie. Elle siège aussi bénévolement comme administratrice de l'Institut de la planification financière depuis plus d'un an.
Quand j'ai vu un poste disponible au sein du conseil d'administration, je me suis dit que c'était l'occasion de donner une voix aux planificateurs qui ont une pratique indépendante. Mais c'est aussi un gros coup de cœur. Là. Je me rappelle mon premier colloque. J'ai ressenti une grande fierté là, d'être planificatrice, d'avoir trouvé ma voix, de sentir que j'étais exactement sur mon X. Puis, dans le fond, j'ai voulu m'impliquer pour faire rayonner cette profession-là.
Avec le contexte économique actuel, les gens se tournent de plus en plus vers des professionnels de la planification financière, ce qui accroît la demande et du même coup, le besoin de recruter.
Dans les prochains mois, on va se faire énormément connaître. Donc, on va participer à toutes sortes de campagnes promotionnelles, tant dans les médias, mais aussi beaucoup dans les activités étudiantes. On ressent le besoin là, de vraiment de la faire connaître pour des gens qui pourraient en faire un choix de carrière en tant qu'étudiant ou des gens qui, comme moi, ont de l'expérience, un bagage professionnel complémentaire et qui pourraient décider d'aller chercher certaines formations complémentaires pour obtenir le titre.
En raison des jours de grève survenus cet automne, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a dû retarder le début de sa session d'hiver et annulera aussi la semaine de relâche. La direction a dû ajuster son calendrier, notamment parce que certains examens de cet automne ont été complétés au début de janvier et que les enseignants avaient jusqu'au 12 janvier pour remettre les notes. Le nouveau calendrier débutera dans la semaine du 29 janvier et comporte toujours 15 semaines de cours ainsi que 6 jours d'examen. Le cégep a retiré la semaine de relâche afin d'éviter éviter que la session se termine après le 6 juin et prolongera plus tôt de 4 jours le congé de Pâques. Par ailleurs, ce sera d'ici au 19 février que les membres du Front commun se prononceront sur l'entente qui a été conclue avec le gouvernement du Québec pendant les fêtes. Par contre, selon la presse, on croit que des orthophonistes pourraient s'y opposer. Du côté de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui concerne davantage les grands centres, on apprenait hier après-midi qu'un troisième syndicat affilié recommandait le rejet de l'entente de principe. Tant pour le Front commun que pour la FAE, le texte doit être adopté par une double majorité, c'est-à-dire par plus de 50 % des syndiqués de chaque unité, ainsi que par au moins 50 % des membres au total. Voilà ce qui complète ce bulletin d'information. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.